Merci d'écouter Radio Kapi, les 19h au village Tabac Congo dans le Tanganyika. 18h à Nzadi Congo, au Congo central, le journal.
Radio Kapi.
À la une, situation encore tendue ce jeudi dans le Rutshuru et Nyiragongo, Nord Kivu. Des affrontements se sont poursuivis entre les FARDC et le M23 dans ces deux territoires. Entre-temps, le porte-parole du gouvernement a révélé qu'une délégation de Kinshasa séjourne à Kigali pour l'activation du mécanisme de suivi des accords entre le Rwanda et la RDC. Santé. Lancement ce jeudi à Kindu de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans l'ensemble de la province du Maniema. Cette campagne cible plus de 589 000 enfants de 0 à 59 mois. Et puis, l'invité de ce soir, Abdulaziz Tioy, directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, il vient de boucler sa visite de travail à Uvira. Il nous parle des entretiens qu'il a eus avec des autorités du Sud Kivu, notamment sur la situation des opérations militaires dans cette partie du pays. Madame, Messieurs, bonsoir. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a évoqué hier le soutien de Kigali au M23, ce en violation des accords bilatéraux. Il a livré ce point de vue du gouvernement congolais au sortir d'une réunion sécuritaire de crise organisée par le Premier ministre Samalou Kondé dans son cabinet de travail à Kinshasa. Devant la presse, le porte-parole du gouvernement a également révélé qu'une délégation de Kinshasa séjourne à Kigali pour l'activation du mécanisme de suivi des accords entre les deux pays. Je vous propose cet extrait de la déclaration du ministre Patrick Muyaya.
Il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, en tout cas des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi et d'ailleurs le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Nous pensons que les M23 ne disposent pas des matériels militaires, en tout cas pour ce que nous avons vécu ou ce que les militaires ont vécu sur le terrain, ce que les extraits humains ont montré, d'où la cristallisation de nos soupçons. Nos forces armées ont été encore une fois de plus mobilisées, que ce soit sur le front de Runyoni ou sur le front des Tchanzu, pour être sûr que chaque centimètre de notre territoire national est protégé. Et d'ailleurs, il vous souviendra qu'il y a quelques mois, 12 mois, nous avons lancé la campagne Mendele Koyate. Je pense que c'est le moment de le relancer parce que nous devons tous, chacun, nous lever pour qu'aucune tentative, d'aucune manière, d'aucun groupe ou de camp pays quelconque ne tente de prendre un seul centimètre de notre territoire.
Pendant ce temps, sur le terrain au Nord Kivu, la situation est restée tendue dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Des affrontements ont continué ce jeudi entre les FARDC et les rebelles du M23. Plusieurs sources civiles et militaires indiquent que l'armée a repoussé l'attaque des rebelles dans la zone de Rumangabo. Au niveau de Kibumba, nos sources convergent sur une progression de l'armée. Le récit de Bernard Denyangi.
Dans le territoire de Rutshuru, les affrontements se sont poursuivis toute la nuit autour de la base militaire de Rumangabo et de la localité de Kabaya, groupement de Kisigari, où l'armée aurait repris entièrement le contrôle ce jeudi matin, affirment les sources civiles et militaires dans la zone. Les mêmes sources confirment que, dans la matinée, les combats se poursuivaient dans la localité de Kanombe, située à une dizaine de kilomètres plus à l'est de Rumangabo, vers le parc. Toutefois, ces villages restent vidés de leurs habitants qui ont fui depuis hier vers Rubare, Rutshuru et Kiwanja. Au niveau de Djomba, un calme apparent règne dans la cité de Bunagana, où les sources locales affirment n'avoir entendu aucun tir cette nuit sur les collines de Tchanzu et Rumioni, qui seraient toujours sous le contrôle de l'armée. Sur le front sud, les sources de la société civile affirment qu'il n'y a pas eu de combat la nuit dernière, tandis que les sources militaires et administratives dans le territoire de Nyiragongo parlent plutôt d'une avancée positive de l'armée vers Kibumba et Bumba pour reprendre le contrôle entier des deux groupements occupés partiellement par les rebelles. L'axe routier Goma-Rutshuru reste toujours coupé jusqu'ici. Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
Et sachez que depuis le début de cette semaine, la commune rurale de Kibumba et ses environs est la cible des nouvelles attaques des rebelles du M23. Cette entité d'environ 30 000 habitants s'est vue du coup vidée de la quasi-totalité de sa population hier. Cette situation est la énième du genre enregistrée dans ce chef-lieu du territoire de Nyiragongo depuis plus de deux décennies. C'est ce que nous dit Bernard Denyangi.
Située sur la route nationale numéro 2 à 29 km de Goma, la commune rurale de Kibumba vit son énième épisode de menace sécuritaire. Limitrophe du chef-lieu de la province, Kibumba est une zone maraîchère qui fournit la grande quantité de légumes consommés à Goma et dans les villes voisines de la province de Rubavu, Rwanda. Depuis pratiquement plus de 20 ans, Kibumba est confrontée à des périodes sombres. Dans un passé récent, elle hébergeait un des plus grands camps de réfugiés hutu-rwandais avant la rébellion de l'AFDL. Plusieurs bus et des humanitaires sautaient sur des mines dans la région de Kibumba vers les années 1996. Lors de la rébellion du CNDP, Kibumba était sous le feu croisé de la rébellion contre l'armée congolaise appuyée par la MONUC en octobre 2008. C'était quand la mission empêchait les hommes de Laurent Kunda d'avancer vers la ville de Goma. Le M23 de Makenga, lors de ses offensives de 2012 et 2013, avait à plusieurs reprises pris d'assaut les positions des FARDC dans la zone de Kibumba. C'est dans Kibumba qu'en mars 2013, le général Deshi Bosco Ntaganda avait abattu à bout portant une dizaine de militaires M23 avant de déclarer une dissidence contre le camp Makenga Bertrand Bissimwa et celui de Runiga Bosco Ntaganda. Goma, Bernardin Yangi, Radio Kapi.
Par ailleurs, les habitants déplacés des villages Kibumba, Kanyanja, Kabaya et Kibati, concentrés actuellement à Kanyaruchinya dans le groupement de Munigi, territoire de Nyiragongo, poussent un cri de détresse au gouvernement ainsi qu'aux organisations humanitaires pour une assistance humanitaire urgente. Ces familles, estimées actuellement à 15 000 ménages, sont dépourvues des denrées nécessaires pour leur survie. Depuis mardi, ces familles vivent la peur au ventre dans un environnement malsain, pas d'eau ni de nourriture, les toilettes sont quasi inexistantes et les risques des maladies d'origine hydrique sont imminentes, affirme-t-elle. Témoignage de cet habitant rencontré ce jeudi dans le site de Kanyaruchinya.
Moi, venant de Kibumba, d'où maintenant nous avons...
Vous êtes où ici?
Nous sommes au niveau de Kanyaruchinya. En tant qu'homme déplacé.
Et comment vous vivez?
Nous vivons dans une vie mondaine, là que nous peinons, les femmes, tant que les hommes, même si les enfants aussi souffrent, nous n'avons pas l'abri à manger, nous manquons comment manger, voire même au niveau de la vie sanitaire, rien ne va. Les enfants font leurs besoins, leurs gras besoins n'importe où. Nous, l'eau à boire, nous manquons ça, ainsi de suite. Vraiment, nous supplions le gouvernement de nous venir en aide parce que nous souffrons d'une façon misérable.
Ces déplacés ainsi que les acteurs de la société civile plaident pour une assistance urgente pour éviter ce qu'ils qualifient de désastre humanitaire. Nord Kivu encore, parlons de ces nombreuses conséquences dues à la suspension de trafic sur la route nationale numéro 2 reliant Beni à Butembo à la ville de Goma, situation consécutive au combat entre les FARDC et les présumés rebelles du M23. Ce jeudi, la quasi-majorité des agences de voyage de Butembo qui empruntent cette route n'ont pas travaillé, en plus des difficultés de trafic sur la route nationale numéro 4 reliant le Nord Kivu à l'ancienne province orientale à partir de l'Ituri. Les responsables de ces agences de voyage affirment que les villes de Beni et Butembo sont maintenant isolées du reste du pays. Reportage signé Sadiki Aboubakar.
Ce matin, l'ambiance était plutôt triste au niveau des agences de voyage de Butembo en destination de Goma. Des passagers debout, sans aucun espoir d'atteindre leur destination, la ville de Goma. De leur côté, quelques responsables d'agences continuent de rassurer leurs clients. Ne voulant pas se faire enregistrer, cet homme, secrétaire d'une agence de voyage, est assis devant son minibus avec un gros cahier d'enregistrement des clients sous les genoux. Il affirme qu'ils doivent prendre la route jusqu'à Kanyabayonga, où ils vont évaluer la situation des plus proches. Jimmy Munguluma, président local de l'Union nationale des agences de transport, affirme que tout est bloqué. La suspension de trafic sur la route Goma vient d'isoler les villes de Butembo et Beni du reste du pays, indique-t-il.
La seule voie qui restait, c'est la route Goma-Butembo. Actuellement, la route Buni est bloquée par les ADF. Là, au lieu de faire au moins 5 jours sans passage pour quitter commande vers Beni, le gouvernement doit faire tous les moyens possibles qu'on puisse trouver la solution dans 2 jours, parce qu'on ne doit pas vivre sans le trafic.
Pendant ces temps, près d'une centaine de véhicules venus de Beni, Butembo et Kirumba en destination de Goma sont bloqués depuis mercredi à Kanyabayonga, affirme Daniel Sengemodia, président de la société civile locale. D'après lui, plusieurs passagers qui n'avaient pas envisagé cette situation ont passé la nuit dans des véhicules. Butembo, Sadiki, Aboubakar, Radio Kapi.
Santé. Au Maniema, lancement ce jeudi à Kindu de la campagne de vaccination de riposte contre la poliomyélite dans l'ensemble de la province. Campagne lancée par le ministre provincial de budget, représentant le gouverneur par intérim. Lancée à partir du marché Makengele, cette campagne vise 589 119 enfants de 0 à 59 mois. Florence Kizalunga pour le reportage.
D'après les chefs de division de la santé, selon les investigations réalisées dans certaines zones de santé, la province du Maniema fait toujours partie des provinces avec le grand nombre d'enfants non ou insuffisamment vaccinés pour plusieurs raisons dont les principales sont données ici par Dr Anakle Kianga.
La faible application des stratégies spécifiques pour atteindre toutes les cibles. Le refus de la vaccination par certains parents dans le contexte actuel de l'infodémie autour des vaccins. Pour nous permettre de contribuer à la réduction de la morbidité attribuable à la polio et ses conséquences sur tous les plans, chaque enfant cible doit être vacciné.
Très préoccupés, tous les partenaires ont réitéré leur engagement commun à continuer d'appuyer le gouvernement congolais pour l'éradication de la poliomyélite. Souka Robert est de l'UNICEF.
Depuis l'année 2022, le pays a notifié 76 cas de polio, dont 61 cas dans la province du Maniema. Ainsi, la province du Maniema est l'épicentre de l'épidémie de la polio actuellement en RDC. Messieurs et madames, informons, mobilisons, engageons toute la communauté autour de nous pour le succès de cette campagne de vaccination.
Signalons que la stratégie de cette campagne de vaccination est de porte à porte et elle va durer 3 jours. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Santé toujours, en Ituri, plus de 90 cas de tuberculose sont enregistrés en l'espace de 3 mois à la prison centrale de Bunia. Ces chiffres ont été publiés mercredi par le médecin directeur du centre hospitalier de la prison de Bunia qui manque des médicaments. Le docteur Watum Uchirchan précise que la cellule pour l'isolement des malades est trop exiguë pour contenir plus de 50 tuberculeux pour le moment, ce qui constitue un danger pour la santé de quelques 2000 détenus hébergés actuellement dans cette maison d'arrêt. Le médecin directeur du centre hospitalier de la prison de Bunia lance ici un cri d'alarme pour pallier ces déficits. Le docteur Watum Uchirchan explique la situation au micro de Ezekiel Mouzalia.
Au-delà de leur vulnérabilité dite à leur état de carcération, la surpopulation, la malnutrition vient maintenant s'ajouter la maladie. C'est ça même, on dirait, on a maintenant mis le feu. Alors c'est ça la situation qui nous fait un peu beaucoup plus peur dans les jours à venir. Pour cet effectif de 92 détenus malades, la zone d'isolement est construite pour une capacité seulement de 16 malades. Ils sont au-delà des 50, ceux qui sont à la première phase, donc la phase intensive. Alors, et puis, ils sont à l'intérieur même de la prison. Et avec risque de développer maintenant une souche résistante qui sera encore beaucoup plus dangereuse comme une arme biologique. C'est pas tout cas qu'on doit toujours amener en justice. Il y a d'autres dossiers qu'on peut traiter même à l'amiable. La personne qui est venue s'en rentre avec la tuberculose ou peut-être c'est là la malchance de mourir aussi.
Dans l'actualité aussi, bientôt un ouf de soulagement concernant le gasoil et le kérosène dans l'ouest du pays. Un des bateaux apportant ces produits est arrivé au port de Matadi ce jeudi. Le ministre des Hydrocarbures, qui le dit, annonce aussi que dans 3 jours, ils pourront déjà arriver à Kinshasa. C'est depuis quelques semaines que le kérosène est rationné dans l'ouest du pays, ce qui a entraîné la réduction des vols des compagnies d'aviation. Et depuis plus d'une semaine, des longues files des motos et des véhicules diesel sont aussi visibles dans les stations-service. Examen de la proposition de loi électorale au sein de la commission politique administrative et juridique de l'Assemblée nationale. La dynamique des femmes candidates d'INAFEC a initié un sit-in de 10 jours au Palais du Peuple pour amener l'Assemblée nationale à prendre en considération la représentativité des femmes dans les institutions du pays. La DINAFEC exige la mise en application rigoureuse de l'article 14 de la Constitution. Pour sa part, la coordonnatrice nationale indique que la prise en compte de la représentativité des femmes sur les listes électorales n'est pas une faveur accordée aux femmes, mais plutôt un droit non négociable et garanti par la Constitution. Karine Kankou l'a dit au micro de Michel Kifindangoy.
Nous avons fait ce sit-in, c'est après être déçus lors de la dernière plénière où il y a eu plusieurs propositions du groupe des 13. Nous avons senti que la reformulation proposée, nous voulons juste le respect de l'article 14. Un droit ne se négocie pas. Les droits des femmes doivent être respectés. Et nous attirons l'attention. C'est l'article certes phare, l'article 13 de la loi électorale, où nous demandons qu'on puisse élaguer l'alinéa qui dit que le manque de parité n'est pas un motif d'irrécevabilité. Et ce travail, nous saluons ce qui a été fait par le G13. On ne peut pas frustrer la plus grande partie de la population, plus de 52%. Ce n'est pas juste. L'état des droits, c'est aussi respecter les droits des femmes.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes au Sénégal. 11 bébés ont péri mercredi dans un incendie dans un hôpital à Tivaouane, dans l'ouest du pays. Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux-nés dans l'incendie survenu au service de néonatologie de l'hôpital public de Tivaouane, a tweeté le président sénégalais Macky Sall. À leur maman et à leur famille, j'exprime ma profonde compassion, a-t-il ajouté. 3 bébés ont été sauvés, a précisé le maire de Tivaouane. L'incendie a été causé par un court-circuit. Oui, et le feu s'est propagé très vite, a dit Demba Diop. Ce drame remet en lumière les graves carences du système sanitaire public du Sénégal.
L'invité.
Fin de la visite de travail ce jeudi du directeur national du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à Uvira, dans le sud Kivu. Abdulaziz Thioy a rencontré toutes les sections de la MONUSCO, le ACR, les autorités militaires et la justice militaire pour discuter des questions de protection et de la situation des opérations militaires dans les moyens plateaux et hauts plateaux d'Uvira, de Fizi et de Mwenga. Abdulaziz Thioy s'entretient à ce sujet avec Fiston Ngoma Mayabala.
Abdulaziz Thioy, bonjour.
Bonjour.
Quels sont les aspects que vous avez pu retenir par rapport aux différents cas de violation des droits de l'homme dans la région ici?
Ce qui revient le plus, ce sont les déplacements de population et le fait effectivement la multitude de groupes armés. Certains membres de la société civile d'ailleurs ont souligné qu'au cours des 3-4 derniers mois, il y a eu une dizaine de nouveaux groupes armés qui sont nés et qui ont été créés. Ce qui montre effectivement que la situation est très inquiétante, parce qu'en réalité, on aurait dû assister au contraire, qu'une confiance soit placée aux forces de défense et de sécurité nationale, qui sont les seules habilitées à défendre les citoyens et leurs biens, quelle que soit leur appartenance ethnique, tribale ou communautaire. Ils sont largement revenus aussi sur les causes du conflit. Ils reconnaissent en fait qu'il n'y a pas de problème entre les différentes tribus, ethnies et communautés, mais qu'en réalité, l'insécurité est plutôt due à la présence de ces groupes étrangers qui sont venus un peu semer la division et créer de l'insécurité. Bon, tout cela fait l'objet de discussions, hein, dans des espaces et des processus au niveau national et régional. Donc, c'est très intéressant d'avoir ces analyses venant de la société civile en général et des autorités elles-mêmes. Donc, il y a une convergence de vues sur les causes du conflit. Alors, les conséquences, on les connaît. Ce sont les déplacements de population, les pertes en vies humaines, les violences sexuelles qui sont très répandues, les intimidations contre les journalistes, les leaders communautaires, les leaders religieux, ainsi que les défenseurs des droits de l'homme. Tout cela, évidemment, pour parvenir à un niveau de protection, de respect des traite l'homme approprié, il faut essayer d'adresser les causes. Et comme vous le savez, le gouvernement congolais est engagé et décidé à mettre en place un processus de justice transitionnelle qui a pour vocation d'adresser les causes profondes du conflit, et y compris dans ses différentes dimensions, dans ses dimensions de vérité, de réconciliation, de poursuite judiciaire pour lutter contre l'impunité, de réparation, mais aussi de création des garanties de non-répétition. Et parmi les garanties de non-répétition, il y a une décision majeure qui a été prise de lancer le programme de DDR, qui est un aspect parmi les alternatives pour créer des conditions, des garanties de non-répétition, faire en sorte que le conflit ne puisse se répéter en adressant, en offrant des opportunités aux auteurs de violences. Donc, si tout cela fait l'objet de discussions, ils sont très attentifs à tous ces processus et très impatients de voir tout cela se matérialiser ici pour enfin que cette partie du Sud Kivu retrouve la paix, la sécurité afin que les populations puissent jouir d'une stabilité et qui est, comme vous le savez, la condition pour un développement.
À chaque fois quand vous publiez les rapports sur l'association des droits de l'homme à travers le pays, ici sur le terrain, il y a une sorte de grogne, une sorte d'objection. Maintenant que vous vous retrouvez ici sur le terrain, est-ce que vous avez pu rencontrer les acteurs des droits de l'homme et rapprocher les vues par rapport à la manière de travailler, entre autres sur l'aspect des discours incitant à la haine?
Merci beaucoup de soulever ce point, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une discussion franche et ouverte avec les membres des différentes communautés, même s'ils préfèrent. Ils considèrent en réalité qu'il n'existe pas de communauté, qu'il existe des tribus, des ethnies, ce qu'on ne nie pas. Donc cela a été clarifié directement avec ceux qui nous ont reproché de réagir à chaque fois qu'une communauté ou un groupe est attaqué et concerné. Et ce qui est paradoxal, c'est que évidemment d'autres groupes nous ont reproché de minimiser ou de ne pas d'être plus ou moins silencieux sur le calvaire que cette communauté-là vive et serait en train de vivre. Donc, ce qui montre effectivement qu'on est à équidistance. Nous travaillons en toute impartialité, sans aucune pression ni sous dictat de qui que ce soit. Ce que nous le faisons sur la base des principes et des normes. Donc, ça veut dire effectivement que les collègues font très bien leur travail. Donc, cela a été clarifié, je pense que ça a été compris. Ils ont exprimé leur frustration, mais ce qui importe, et c'est ce qui a été discuté, c'est la nécessité pour tous de s'abstenir de recourir à la violence, ni des messages qui pourraient amener des individus à passer à l'action contre les autres, d'inciter à la haine, d'inciter à la violence, d'inciter à l'hostilité et d'inciter à la discrimination.
Monsieur Abdulaziz, merci beaucoup.
Je vous remercie.
Le directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme répondait aux questions de Fiston Ngoma. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Rongmouchinj, coordonné par Élisée Chikotachi-Vuitta. Jean-Claude Siala à la mise en onde et Belinda Bossouma vous l'a présenté. Merci de votre attention.